Chapitre 21. Quarantaine.
Tu crois aux fantômes, Dim?
Certainement pas, mais comme tout homme raisonnable, j'en ai peur.
Pourquoi me demandes-tu ça?
Et parce que cette nuit, j'ai eu une conversation avec Dave Bowman, et si ce n'était pas un fantôme, c'était le rêve le plus impressionnant que j'ai jamais fait.
Poole savait que lorsqu'il le faudrait, le capitaine Chandler le prendrait au sérieux, et il ne fut pas déçu par sa réponse.
C'est intéressant, mais il y a quand même une explication évidente. Car enfin, bon Deus, tu vis dans la suite Bowman. Tu as dit toi-même qu'elle semblait hantée.
Il y a toutes les chances pour que tu aies raison. D'ailleurs, les discussions que j'ai eues avec le professeur Ted n'y sont probablement pas pour rien.
Mais sais-tu qu'on m'a signalé plusieurs fois la présence de Dave Bowman à Anubis? Une fois tous les 100 ans environ.
Exactement comme avec le docteur Floyd à bord de Discovery quand le vaisseau a été réactivé.
Et que s'est-il passé alors? J'ai entendu de vagues histoires à ce sujet, mais je ne les ai jamais prises au sérieux.
Le professeur Kahn, lui, les prend au sérieux, et moi aussi. J'ai vu les enregistrements d'origine. Floyd était assis dans mon vieux fauteuil, quand une sorte de nuage de poussière s'est formé derrière lui et a pris la forme du visage de Dave. Puis il lui a transmis le fameux message d'avertissement leur disant de s'en aller.
Ah, je te comprends, mais c'était il y a 1000 ans. On a eu tout le temps de trafiquer l'enregistrement.
Quel intérêt.
Kahn et moi l'avons regardé hier. Je suis sûr qu'il est authentique.
Ah, en fait, je suis d'accord avec toi. Et j'ai entendu parler de ces rumeurs.
Chandler avait l'air embarrassé.
« Il y a longtemps, reprit-il, j'avais une petite amie ici à Anubis. Elle m'avait dit que son grand-père avait vu Bowman. Ça m'avait fait rire.
Je me demande si Ted possède une liste de ses apparitions.
Tu pourrais le mettre en contact avec ton ami ?»«
Ah, je ne préfère pas. Il y a des années qu'on ne se parle plus. À présent, elle est peut-être sur la Lune ou sur Mars. » Et puis en quoi cela intéresserait-il le professeur Kahn?
Justement, c'est ce dont j'avais envie de discuter avec toi.
Vas-y, je t'écoute.
Ted pense que Dave Bowman, ou ce qu'il est devenu, doit encore exister. Là-bas, sur Europe.
1000 ans après?
Eh bien, regarde-moi.
Mon prof de maths disait toujours qu'on ne faisait pas de statistiques à partir d'un seul cas, enfin. Continue.
C'est une histoire compliquée, peut-être même un puzzle dont il manquerait la plupart des pièces. En général, on s'accorde à dire que quelque chose de crucial s'est produit pour nos ancêtres lorsque le monolithe est apparu en Afrique il y a 4 millions d'années. Il marque un tournant dans la préhistoire, l'apparition des outils, des armes et de la religion. C'est à coup sûr davantage qu'une simple coïncidence. Ce monolithe a dû nous faire quelque chose. Il ne pouvait pas se contenter d'être là, d'accepter passivement d'être adoré. Ted aime citer un célèbre paléontologue qui a déclaré un jour « La MT-0 nous a donné un coup de pied évolutionniste dans les fesses ». D'après lui, ce coup de pied ne nous a pas vraiment fait prendre la direction souhaitable. Fallait-il devenir aussi médiocre et aussi méchant pour survivre? Peut-être. Si je le comprends bien, Ted pense que fondamentalement, quelque chose ne va pas dans nos connexions cérébrales, ce qui nous rend incapables de penser de façon logique. Puis, alors que toutes les créatures ont besoin d'une certaine dose d'agressivité pour survivre, il semble que nous en manifestons beaucoup plus que le strict nécessaire. Et aucun autre animal ne torture son semblable comme nous le faisons.
Est-ce un accident de l'évolution, un coup de malchance de la génétique?
On s'accorde aussi à dire qu'AMT-1 a été déposé sur la Lune pour observer l'expérience et en rendre compte à Jupiter, l'endroit idéal pour installer une mission de contrôle du système solaire. C'est pourquoi un autre monolithe, Big Brother, attendait là-bas. Il attendait depuis 4 millions d'années quand Discovery est arrivé. Jusque-là, tu es d'accord?
Oui, moi j'ai toujours pensé que c'était la théorie la plus plausible.
Passons maintenant à la partie la plus spéculative. Bowman, apparemment, a été avalé par Big Brother. Mais quelque chose de sa personnalité semble avoir survécu. 20 ans après cette rencontre avec Heywood Floyd, lors de la deuxième expédition Jupiter, ils ont établi un autre contact avec lui à bord de Universe. C'était en 2061, pendant une mission d'observation de la comète de Halley, et Floyd se trouvait également à bord. Il l'a raconté dans ses mémoires, même s'il avait plus de 100 ans lorsqu'il les a dictées.
Il était peut-être gâteux.
D'après les témoignages de ses contemporains, ce n'était pas le cas. En outre, et sans doute encore plus significatif, son petit-fils Chris a eu des expériences aussi curieuses quand le Galaxy a dû faire un atterrissage forcé sur Europe. Et bien sûr, précisément à l'endroit où le monolithe se trouve à l'heure actuelle. Entouré d'Européens.
Commence à voir où le professeur Kahn veut en venir. C'est là qu'on intervient. Le cycle recommence. Les Europes sont soignées pour devenir des vedettes.
Exactement. Tout concorde. Jupiter s'est enflammé afin de leur donner un soleil qui dégèlerait leur monde. Et si on nous a intimé l'ordre de nous tenir à distance, c'est probablement pour que nous n'interférions pas dans leur développement.
Ah, ouais-je déjà entendu cette idée ? Ah oui, ça remonte à ton époque, Franck. La première directive. Ça continue à nous faire rire, ces vieux épisodes de Star Trek.
T'ai-je raconté que j'ai rencontré certains des acteurs qui y jouaient un rôle ? Ils seraient surpris de me voir en ce moment. Et j'ai toujours émis des réserves à propos de cette histoire de non-interférence. Il est certain qu'à l'époque, en Afrique, le monolithe a violé cette règle avec nos ancêtres. On peut penser que les résultats ont été désastreux.
Donc, il faut que cela se déroule mieux la fois suivante, sur Europe.
Poole se mit à rire, sans grande conviction. Kahn a dit exactement la même chose.
Et à son avis, que devons-nous y faire ? Mais surtout, quel est ton rôle, à toi, dans cette histoire ?
D'abord, découvrir ce qui se passe vraiment sur Europe, et pourquoi ? La simple observation depuis l'espace ne suffit pas.
Mais que faire d'autre ? Chaque fois que les Mèdes ont envoyé une sonde, elle a explosé avant d'atterrir.
Et depuis la mission envoyée pour secourir le Galaxy, les vaisseaux habitants ont été déroutés par une sorte de champ de force que personne n'a pu déterminer. Très intéressant. Cela prouve que ce qu'il y a là-bas protège la planète, mais pas de façon malveillante. Et cette entité a un moyen de savoir ce qui y approche, puisqu'elle distingue entre les engins habités et les simples sondes robots.
Je n'arrive toujours pas à en faire autant, moi. Vas-y, continue.
Eh bien, Ted estime qu'un seul être humain est capable de se poser sur Europe parce que son vieil ami est là-bas et qu'il pourrait avoir une influence sur lui. Le capitaine Dimitri Chandler émit un long sifflement.
Et tu es disposé à prendre le risque ?
Oui. Qu'est-ce que j'ai à perdre ?
Une excellente navette, si je devine ce que tu as en tête. C'est pourquoi tu as appris à piloter le Falcon.
Maintenant que tu en parles, c'est vrai que l'idée m'a traversé l'esprit.
Il faudra que j'y réfléchisse. Je reconnais que cela m'intrigue, mais des tas de problèmes se posent.
Te connaissant, je suis sûr qu'ils seront rapidement balayés. Quand tu auras décidé de m'aider.